Une interview avec Raphaël Baroni qui est avec nous en direct par téléphone. Bonsoir Raphaël Baroni. Merci beaucoup d'être avec nous. On parlait juste à l'instant justement de ce morceau de trash que nous a parlé, que nous a passé Karl.
C'est pas vraiment du trash, hein, je me permets, mais bon, c'est rock and roll.
Et on trouve en insert de votre dernier livre, L'œuvre du temps, une citation de Kurt Cobain, une citation de son journal. Et ça peut être peut-être une bonne introduction pour parler de narratologie. Et une première question de la narratologie ouvre le champ de la fiction très très large avec cette citation de Kurt Cobain.
Voilà. Mais vous voulez que je commente la citation de Kurt Cobain?
Et bien par exemple.
Voilà. Donc oui, Kurt Cobain, moi je vais peut-être la citer, cette citation. Si vous pensez que tout a été déjà dit et fait, alors comment se fait-il que rien n'ait été réglé et résolu? Je vous le demande. Et j'ai trouvé je vous le fais pas en anglais parce que mon accent est épouvantable, mais j'ai trouvé cette citation intéressante parce que il me semble que l'œuvre du temps, alors qu'est-ce que c'était que l'œuvre du temps? Mon objectif était essentiellement de faire un livre qui parle du temps dans le récit. Finalement, on sait bien que le récit, le but du récit, la nature profonde du récit, c'est de raconter des histoires, donc des choses qui se déroulent dans le temps. Et finalement, et étrangement, c'est peut-être la dimension du récit qui a été la moins étudiée durant l'âge d'or de la narratologie. Parce que dans le paradigme structuraliste qui marquait l'époque, la structure conduisait à chercher la forme partout. Et je crois qu'il y a là une grande, disons, opposition entre deux formes de rationalité ou d'intelligibilité ou d'expérience, on pourrait dire, humaine, qui est celle de la forme et celle du temps. Comme vous savez, c'est a priori kantien, hein, de l'expérience, l'espace et le temps. Alors la physique nous a appris que les choses étaient peut-être liées, mais je pense que dans l'expérience, ce sont deux dimensions très différentes, hein, et qui renvoient à des champs de réalité très différents. Et il me semble que le récit, c'est le lieu précisément où peut-être explorer cette dimension temporelle. Et dans la citation de Kurt Cobain, ce qui me semblait intéressant, c'est cette idée de penser à ce qui n'est pas encore réglé, ce qui n'est pas encore résolu, ce qui est encore ouvert. Et il me semble que se cache dans cette figure, cette idée d'une totalité qui n'est pas encore accomplie, d'une forme qui n'est pas encore formée, hein, qui est en formation, le cœur, en fait, du problème de la temporalité.
Et voilà. Alors, avec cette notion de... Enfin, avec cet extrait de Kurt Cobain, du coup, moi ça me fait penser que dans votre livre, vous n'utilisez pas uniquement un corpus littéraire bien établi, dans le temps, avec des grands grands noms de la littérature, vous utilisez aussi des choses populaires, vous utilisez le cinéma par exemple, ou là du coup vous utilisez la chanson.
Oui, disons, bon là, je n'ai pas vraiment parlé du problème de la musique ou de la chanson.
Non, c'est uniquement la citation qui est là, effectivement.
La citation, parce que c'est un chant, mais ça ne veut pas dire que le chant ne serait pas très très intéressant à explorer. Ça m'arrive parfois, et je trouve que la métaphore est intéressante, elle était déjà utilisée par Barthes et par beaucoup de gens qui réfléchissent sur le récit, la métaphore de la musique. Parce qu'il y a quelque chose dans la musique qui est incompressiblement temporel. On peut pas avoir une image d'un morceau, on est obligé d'avoir une mélodie. Et pour penser, même conceptuellement, pour se rappeler, pour identifier une mélodie, on a besoin de se la dérouler dans le temps. Il me semble qu'il y a là quelque chose qui est très proche de ce qui se passe avec un récit. Hein, pour identifier un récit, bon, on peut donner un titre, mais si on n'a pas un titre, une forme, quelque chose comme ça, c'est d'abord une trame, quelque chose qui bouge dans le temps, quelque chose qui réclame du temps pour pouvoir être raconté, pour être résumé. Et c'est cette dimension incompressiblement temporelle qui m'intéressait. Et effectivement, bon, moi, j'ai une approche. Je viens de donc je sais que en France, dans le milieu académique institutionnel, les champs sont assez bien délimités entre les sciences du langage et les études littéraires. Par chance, il me semble que c'est une chance en Suisse. On a beaucoup d'ouverture interdisciplinaire. Et moi-même, ma thèse a été dirigée par un linguiste et par un sociologue. Et finalement, c'est avéré être plutôt une thèse qui serait identifiée en tant que narratologie comme se rattachant à la théorie littéraire, puisque la narratologie est classiquement plutôt rattachée à la théorie littéraire. Donc, en fin de compte. Ce que je veux dire par là, c'est que la question de savoir quelle extension doit avoir ma réflexion, je ne me la pose pas d'emblée en termes de restriction. Est-ce que mon propos n'est pas d'emblée une question de théorie littéraire. Donc de ce point de vue-là, j'ai trouvé intéressant aussi, par exemple, les travaux de Jean-Marie Schaeffer ou des travaux de gens qui sont au CRAL aussi à Paris, d'avoir cette ouverture interdisciplinaire, de se dire que quand on traite le problème de la fiction, on traite d'abord un problème cognitif, culturel, qui englobe un vaste champ de production culturelle, dans lequel la littérature tient un rôle particulier, un rôle qu'il faut reconnaître pour celui qu'il est, mais qui est finalement en type, en genre de récit fictionnel, parmi d'autres genres de récits qui sont fictionnels ou non.
Voilà, parce que la narratologie telle que vous la pratiquez, elle déborde largement le champ de la littérature, même celui de la fiction. D'ailleurs, le premier chapitre de l'œuvre du temps, vous le consacrez à la manière d'écrire des historiens et des journalistes. Est-ce que ça déplace justement le champ de la fiction ?
Oui, alors si je parle donc dans mon parcours académique de nouveau, c'est peut-être intéressant quand même de le signaler. Pendant ces trois dernières années, j'ai pu participer à une recherche du Fonds national de la recherche scientifique en Suisse, qui travaillait sur, nous travaillons à l'université de Fribourg sur les récits de la presse quotidienne, une recherche dirigée par Françoise Reva. Et c'était très intéressant pour moi, non seulement pour m'intéresser à d'autres formes de récits, à d'autres genres de récits, mais aussi pour mieux comprendre la spécificité du récit fictionnel et du récit littéraire en lui-même. Parce que, par exemple, dans mon premier livre, qui traitait de la question de l'intrigue et de la tension narrative, une des questions qui m'avait été posée par Jean-Marie Schaeffer, c'était de savoir, est-ce que ce type de fonctionnement que vous présentez est propre seulement au récit de fiction ou à l'ensemble des récits ? Et j'avoue que j'avais beaucoup de mal à répondre à cette question tant que je n'avais pas fait une étude approfondie de corpus de récits non fictionnels. Et travailler sur le récit de presse était particulièrement intéressant parce qu'il me semblait que, au niveau d'un article de presse, il y a quelque chose qui semble totalement incompatible avec l'intrigue au sens où je l'entendais, à savoir que, pour moi, une intrigue, c'est quelque chose qui construit une forme de tension narrative, en suspense, de la curiosité, donc qui est une forme de discours très peu coopératif qui vise à repousser aussi longtemps que possible la livraison d'une information qui, d'ailleurs, peut-être ne sera jamais donnée, peu importe. C'est comme ça qu'on noue une intrigue. Et dans le récit de presse, évidemment, c'est totalement contradictoire avec le contexte pragmatique de ce genre de discours, puisque ce qu'on enseigne à l'apprenti journaliste, en gros, la première chose qu'on lui enseigne, c'est donner l'information la plus importante au début, si possible déjà dans le titre. Il faut penser que le lecteur d'un récit de presse, c'est un lecteur pressé. Quand il lit son journal, il lit peut-être 5% de l'ensemble du journal, donc la plupart du temps, il ne lit que les titres.
Voilà, les chapeaux.
Pour être informé. Et donc, ce qui était très intéressant, c'est que là, c'était impossible d'imaginer une mise en intrigue à l'échelle d'un récit de presse. Par contre, ce qui était très intéressant, c'est de voir que aussitôt que l'information rentrait dans une forme qu'on pourrait appeler une forme de feuilleton médiatique, c'est-à-dire quand on relaye une information qui n'est pas encore achevée, par exemple une élection présidentielle, pour prendre un exemple, là, d'emblée, se construisent des effets qui sont très très similaires à ceux que l'on rencontre quand on lit une œuvre de fiction. C'est-à-dire que quand on relate au jour le jour une élection présidentielle, par exemple, il y a énormément de suspense, une forme de suspense naturel, une sorte d'intrigue naturelle, qui est ici liée profondément à une insuffisance d'information à disposition du journaliste. Et là, c'est très intéressant de voir à quel point ici, vous voyez, l'effet de fictionnalité ou l'effet de mise en intrigue vient ici d'un manque d'information. Et ça, c'est, je pense, une façon de saisir peut-être une chose qui est essentielle au discours fictionnel. C'est que la fiction construit son intrigue sur un manque d'information. Voilà. Donc, il me semble que, bien sûr, dans un contexte tout à fait différent, puisque là, ce n'est pas. Dans l'intrigue, il y a cette sensation toujours qu'il y a une sorte de déséquilibre entre la position de connaissance de l'auteur et celle du lecteur, ou du moins ce qu'on suppose que c'est l'auteur, tandis que dans le cas du discours journalistique, évidemment, le journaliste doit partager cette ignorance avec son lecteur, sinon c'est un mauvais journaliste. En gros.
Et pour le champ historique, la
et
manière d'écrire des historiens.
C'est un autre champ qui est beaucoup plus traditionnellement opposé à la fiction, hein, notamment dans l'œuvre de Paul Ricoeur. C'est vraiment le grand paradigme qu'on oppose à la fiction, parce que c'est aussi le paradigme qui se rattache au monde du livre, à la littérature au sens large disons, du terme. Et c'est un mode ici aussi de narrativité qui me semble fondamentalement opposé, dans le sens où l'historiographie poursuit un but là scientifique, un but d'explication du monde. Occasionnellement le discours historien peut imiter le discours fictif pour jouer un peu avec son lecteur, ou bien alors précisément parce que là aussi il y a un manque d'information qui fait que à un certain moment il n'y a pas d'autre façon de raconter que de raconter de manière un peu intrigante parce qu'on ne sait pas. Mais la visée pragmatique de ce genre de récit est fondamentalement orientée vers l'explication et vers la configuration. Et là aussi, on voit vers ce que j'appellerais la concordance dans le sens de Ricoeur, alors que précisément, il me semble que la littérature repose beaucoup plus sur la question, sur ce que j'appellerais une forme de discordance narrative, hein, le but de ce livre de faire une poétique de la discordance narrative, pas seulement dans le sens vulgaire de créer une œuvre intrigante, excitante, même si c'est certainement une visée qu'on peut, mais aussi parce qu'il me semble que la fiction, c'est le lieu où peut être vraiment médité cette condition humaine fondamentale qui est le fait que pour l'être humain, vivre le temps, le ressentir au fond de ses tripes, à l'estomac, comme dirait Grac, c'est vraiment vivre dans un univers qui n'est pas complètement clair, complètement configuré.
Alors, justement, c'est quoi, concrètement, la discordance narrative ?
Voilà, donc c'est un terme que j'emprunte à Ricoeur, mais ici, en inversant l'accent qui est traditionnellement fait, parce qu'en général, les gens qui lisent Ricoeur essaye de simplifier un petit peu cette pensée très tortueuse et pleine de paradoxes en simplifiant le tableau et en disant, en gros, hein, on vivrait dans une expérience temporelle qui, quand cette expérience serait la plus authentique, la plus nue, serait une expérience dans laquelle on serait confronté à une aporie, à une impossibilité de saisir le temps. Il parle de la méditation augustinienne sur le temps dans laquelle Augustin se lamente en disant, voilà, le futur n'est pas encore là, le passé n'est déjà plus là, et le présent, aussitôt que je le pense, il est déjà plus là. Donc, le temps est un insaisissable. Alors, voilà, dans la pensée de Ricoeur, il emprunte à Aristote l'idée de ce récit qui aurait la fonction de construire une totalité, un début, un milieu, une fin, et donc d'organiser la temporalité, de lui donner une forme. Donc, en gros, ça résumerait à l'idée le temps vécu serait discordant, serait une forme de discordance, de distension de l'âme, mais sans étendue, sans forme, et l'expérience du récit serait un travail de mise en concordance de ce vécu par l'œuvre poétique. Et il me semble que cette pensée masque beaucoup de choses et est très problématique pour deux raisons. La première, parce qu'il me semble que dans l'œuvre de fiction, le travail n'est pas tellement de construire une concordance, un monde bien organisé, bien où tout apparaît comme sensé, où la causalité apparaît comme immédiate, mais au contraire, l'œuvre de fiction vise souvent à produire une discordance pour être intrigante. Pour moi, le travail de mise en intrigue, c'est davantage un travail finalement de mise en discordance que de mise en concordance. Donc on voit déjà que là, ça pose un problème. C'est certainement pas le problème des historiens, au contraire. Hein. Et là, le problème de Ricoeur, c'est probablement qu'il importe un modèle historien dans le champ de la fiction, où les historiens, effectivement, sont plutôt obsédés par la configuration et par sortir du temps pour expliquer les choses. Et l'autre problème vient du fait que l'expérience la plus brute de la temporalité n'est jamais une expérience de la pure discordance. Parce qu'on a beau être plongé dans le temps, au cœur du temps, l'expérience la plus pure est déjà prise dans des structures narratives. Le fait de formuler un projet, le fait de se souvenir de quelque chose, le simple fait d'être au milieu d'une interview à la radio, on sait que cette interview a un début, un milieu et une fin, là je suis plutôt au milieu, et je sais que tout ça n'est pas du tout informe ou discordant. Hein. Ce qui est une discordance, c'est que je ne sais pas très bien comment ça va se terminer.
Mal.
Un peu comme quand je lis en bon roman.
Bien entendu.
Je ne sais pas très bien comment ça va se terminer. Et donc, vous voyez, ce mélange de concordance et de discordance est déjà ici au cœur de l'expérience la plus brute. Donc, finalement, on voit que cette dialectique concordance-discordance est quelque chose qui est beaucoup plus complexe que ce que les lecteurs un peu pressés de Ricoeur auraient envie de penser. Et ça nous amène ici à aussi retrouver des liens entre les intrigues que j'appellerais naturelles, celles du temps dans lequel nous sommes plongés, comme quand nous sommes au milieu d'une élection présidentielle. Alors, c'est les récits qu'on lit dans les journaux, mais c'est simplement les récits qu'on se fait aussi dans sa tête. Hein. J'aimerais qu'un tel soit président ou pas un tel. Et donc ces intrigues naturelles dans lesquelles nous sommes plongés, intriquées, toutes les intrigues de nos vies, hein, toutes les choses qui nous inquiètent, tous les souvenirs qui nous obsèdent, les zones d'ombre sur lesquelles on voudrait faire la lumière, toutes ces choses qui ne sont pas déjà complètes et formées et configurées, et les intrigues littéraires ont quelque chose en commun et quelque chose qui est aussi authentiquement original dans l'expérience. Voilà, c'est un peu l'objet donc, valoriser finalement le travail de la discordance dans l'intrigue.
Alors du coup, est-ce que une des principales spécificités du récit fictionnel, c'est la discordance narrative ?
Exactement. Je pense qu'aussi, un des problèmes qu'a eu la narratologie et un des problèmes que pose la manière dont aujourd'hui beaucoup de gens se servent des travaux de Ricoeur, c'est la tendance à vouloir faire du problème du récit un problème général, qui touche à l'ensemble du phénomène de la narrativité, alors que je pense qu'il est beaucoup plus productif de s'intéresser ici aux différences liées au genre des récits, et notamment à ce qui fait le contexte pragmatique de ces genres, qui font qu'on ne raconte pas toutes les histoires de la même manière. Et que le fait qu'on ne raconte pas toutes les histoires de la même manière a quelque chose qui mérite d'être éclairé. Et effectivement, dans le cadre de la fiction, si on arrive à sortir du stéréotype un peu vulgaire, du concept un peu vulgaire de fiction, qui serait que la fiction c'est seulement ce qui fait du suspense, et c'est quelque chose qui est réservé aux œuvres, qu'on dira populaires, pour être gentil, et que la grande littérature évidemment ne touche pas à ce genre de choses, si on accepte de voir peut-être dans ce concept peut-être un peu plus nuancé ou plus large de l'intrigue, quelque chose qui ressemble à ce que disait peut-être Camus quand il disait par exemple l'œuvre d'art renonce à rationaliser, ou comment disait-il déjà, l'œuvre d'art c'est une forme qui vise qui renonce à rendre raisonnable le réel, à éclairer le réel, hein, qui veut au contraire rentrer dans cette complexité, dans cette absurdité qu'est le réel. Et là je pense qu'il y a quelque chose qui est une œuvre, une fonction très, très noble de l'intrigue, pour autant qu'on le voit sous cet angle-là. Mais ce que je veux dire, je voudrais insister sur ce point, c'est qui est vraiment paradoxal avec l'intrigue, qui est vraiment le cœur de ma réflexion, c'est que dans certains milieux, on voit de l'intrigue partout. Pour les gens qui sont en sciences du langage, en analyse du discours, en psychologie, en didactique, pour eux, chaque fois qu'on construit un récit, ils ont bien lu Ricoeur, mais ils ont élargi la portée de son modèle, ils disent il y a de la configuration, tout récit construit une forme de rationalité, donc tout récit procède à une mise en intrigue, une histoire, dans le sens qu'a donné Ricoeur. Et si on va dans le champ littéraire, là, alors on est dans un contexte un peu fascinant, dans lequel, en gros, puisque l'intrigue c'est quelque chose de vulgaire, quelque chose de commercial, quelque chose que la grande littérature ne peut pas se permettre de faire, en fait on verrait de l'intrigue à peu près nulle part, sauf dans les marges de la littérature. Et ça me paraît quand même très étrange d'arriver tout à coup dans une situation où on dirait que le moindre récit oral, le moindre récit de presse, la moindre fiction, le moindre livre d'historien construirait une intrigue, alors que la plupart des fictions respectables ne construiraient pas d'intrigue. Il me semble que ça, c'est très contraire au concept, disons, au sens ordinaire de ce que c'est qu'une intrigue. Pour moi, il me semble qu'il faut ici repartir de ces usages ordinaires du langage, hein, comme faisaient des gens comme Austin ou des gens comme ça, pour voir que ça veut dire quelque chose, le fait que de dire qu'un récit est intrigant. Est-ce que tous les récits sont intrigants? il me semble que ce n'est pas nécessairement la première chose qu'on dirait dans un article de presse, ou alors seulement dans un article qui s'inscrit dans un feuilleton médiatique, ce qui veut dire quelque chose. Ou est-ce qu'un récit d'historien est intriguant? Oui, ça me semble ici aussi peu crédible. Par contre, il me semble qu'il y a des récits qui se rattachent habituellement à la modernité, à des récits auxquels on n'a pas tellement tendance à rattacher l'idée qui serait construite sur une intrigue, dans lesquels il me semble qu'il y a des lectures très intrigantes.
Alors là, on peut parler du nouveau roman. Là, je vous cite. Oui. Ce qui me surprenait, c'était bien plutôt de voir les théoriciens du nouveau roman critiquer l'intrigue avec vigueur, alors qu'il n'avait, au fond, jamais cessé de la pratiquer. Mm-hmm. Vous êtes à contre-courant de ce qui se dit habituellement.
Oui, oui, en tout cas de ce que disait Rob Grier, hein, qui a, dans ses essais, beaucoup critiqué l'intrigue, mais qui, il me semble, la pratiquer beaucoup dans ses romans. Mais c'est vrai aussi que là, il y a peut-être quelque chose qui est lié à une réduction du concept qui a été opéré probablement par les structuralistes. C'est-à-dire l'idée qu'on a longtemps, et on continue dans les milieux, littéraires, à associer l'intrigue avec la forme de l'histoire. La forme chronologique de l'histoire qu'on recompose en général à la fin du récit. Hein, quand on a parcouru tout le récit, on connaît tous les éléments de l'histoire, puis on peut hiérarchiser les différents épisodes de l'histoire, les rechronologiser, et puis voilà, on a une belle architecture. Sauf qu'une architecture, ben, c'est une forme, mais c'est pas du temps. Et puis surtout, sauf qu'on oublie qu'il y a certainement deux grandes modalités de l'intrigue qui existent depuis que les gens racontent des histoires. La première repose effectivement sur le respect d'une certaine forme de chronologie, construit en effet qu'on pourrait appeler le suspense. Donc on commence une histoire dont on ne sait pas très bien comment elle va se terminer. Le récit suit l'ordre de cette histoire et nous intrigue en repoussant le moment où est racontée l'issue de l'histoire. Mais il existe aussi d'autres modes de récits très intrigants qui se construisent simplement sur un brouillage de la représentation de l'action, qui passe très souvent sur une destruction de la chronologie ou un bouleversement de l'ordre chronologique, et qui est extrêmement intriguant parce que ça excite la curiosité. On commence au milieu de l'histoire, on se demande mais qu'est-ce qui se passe, qui est ce personnage, quelle est son intention. Souvent, hein, l'intention, le but, c'est le cœur de l'action, c'est souvent ce qu'on va masquer. Donc la plupart des romans, c'était ce que Roland Barthes appelait le code herméneutique, hein. Il disait qu'il y avait deux grands codes qui étaient irréversibles dans le roman. C'était le code des actions, ce qu'il appelait le code proaérétique, et puis le code herméneutique, qui est le code des énigmes suspendues. Et il me semble qu'une fois qu'on se met d'accord pour reconnaître dans l'intrigue deux modalités qui se rattachent à ces deux codes, le code des actions, de l'ordre des actions, et le code du jeu des énigmes suspendues, à ce moment-là, on peut ranger une grosse masse d'œuvres relativement expérimentales du côté de l'intrigue. Hein, il me semble que Les Gommes de Rob Grier, c'est un roman très intriguant. La modification de Butor, ça, je l'ai un petit peu analysé dans mon premier livre, mais c'est un livre extrêmement intriguant. Ce qui, simplement, il y a aussi une autre chose, c'est qu'on a tendance à associer à l'intrigue l'idée de la recette, de la grosse ficelle, du procédé cousu de fil blanc. Et donc on a toujours l'idée que c'est un procédé stéréotypé qui fonctionne sur la répétition de formes bien connues, en gentil, en méchant, en combat, en conflit, voilà. Mais en réalité, si on regarde vraiment le fonctionnement poétique, et cognitif et affectif de ces modes de mise en intrigue, en fin de compte, c'est pas très important de savoir si l'histoire qu'on raconte est une histoire très dramatique avec un conflit sanguinaire. Prendre le train de Paris à Rome et puis masquer au lecteur pendant une bonne moitié d'un roman de 300, 400 pages, pourquoi ce personnage se rend de Paris à Rome, c'est très intriguant. C'est un procédé de base qui était pratiqué par Balzac dans les incipits de ses romans, dans Le Cousin Ponce. C'est exactement le même procédé. Il y a un personnage qui se rend chez une femme, on ne sait pas pourquoi il se rend chez cette femme, et il nous faut 30 pages pour le savoir. C'est une façon très intrigante de commencer un roman. Ben, c'est ce que fait Michel Butor dans La Modification. Jusqu'à la moitié du livre, on ignore le but et le contexte réel de son action. Ça nous prend 150 pages pour comprendre qu'en gros, j'espère ne pas gâcher l'intrigue aux gens qui n'auront pas encore lu, mais tout le monde a déjà lu la modification. Il s'agit d'un type qui va rejoindre sa maîtresse qui a décidé de quitter sa femme. Maintenant, au milieu du roman, transformation, et tout à coup, la question c'est, il commence à avoir des doutes. Alors, est-ce qu'il va aller au bout de son action ? Là, c'est un conflit intérieur qui se pose chez ce personnage. En plus, le titre nous conduit à nous méfier, hein, ça s'appelle la modification. Est-ce qu'il va modifier son plan ? Et là, de nouveau, le récit reste très intriguant jusqu'à la dernière page. On ne sait pas jusqu'à la dernière page s'il va finalement décider d'aller voir sa maîtresse ou s'il va simplement rentrer chez lui. Parce que peut-être c'est une mauvaise idée d'aller là-bas. Et tout ça tendu sur un chemin de fer, tous ces plans temporels vers le passé, vers le futur, tout ça sont des plans temporels qui sont vécus dans les pensées du personnage. Le roman lui-même suit une certaine ligne chronologique, tendue d'un point de départ à un point d'arrivée, comme notre lecture est tendue le long de cette ligne. Mais là, on voit quand même qu'on est dans quelque chose d'assez expérimental, parce que le contexte, le cadre de cette action paraît d'être complètement dédramatisé, mais en fait, la lecture est très dramatique. Et en même temps, elle met en place des procédés qui peuvent être, qui sont originaux, mais qui restent ceux parfaitement reconnaissables de ce que j'appellerais une intrigue. Voilà un exemple parmi d'autres de nouveaux romans très intrigants.
Alors là, on est au cœur de la fabrication de la fiction littéraire. Mm-hmm. J'ai envie de vous demander un peu de manière provocante, comment l'écrivain peut utiliser les concepts de la narratologie ? Est-ce qu'il doit utiliser les concepts de la narratologie pour améliorer ses fictions ?
Voilà, je ne sais pas si vous pensez à Bayer, hein, vous demandant comment améliorer les œuvres ratées, mais...
Pourquoi pas éventuellement ?
Mais je pense que c'est assez important de ne pas donner de recettes. Et certainement, pour moi, c'est aussi assez important qu'on ne lise pas ces travaux de narratologie comme des livres de recettes. Pour plusieurs raisons, mais une des raisons, c'est plutôt que, de toute manière, dans ma position d'analyste, je viens après coup et j'essaie de réfléchir sur les modèles qui décrivent le mieux les phénomènes. Mais le danger des recettes, c'est de donner de nouveau cette impression que l'intrigue, finalement, c'est que une succession de recettes. En gros, il y aurait quelques recettes qu'on pourrait apprendre. Et donc, il y a plein de gens qui ont cette approche très prescriptive, très rhétorique comme ça de l'intrigue, et qui gagnent beaucoup d'argent aux États-Unis en vendant des cours ou des livres de manuels d'écriture, de scénarios ou de romans. Mais je pense que c'est très dangereux parce que très souvent, aussitôt qu'on donne des modèles prescriptifs, on s'enferme dans des recettes et on montre pas l'extrême créativité de cette exploration temporelle. En fait, moi, je préfère aller vers des textes limites et essayer de me poser la question, est-ce que là, on est encore à la limite de l'intrigue ? Qu'est-ce qu'il y a d'intrigant quand je lis un texte de Julien Gracq que tout le monde, que certains linguistes disent ne pas être narratif du tout, comme la presqu'île, par exemple, qui est analysée dans le livre. Est-ce que ce récit est intrigant et je dois avouer que j'étais parti avec beaucoup de méfiance. Je savais que c'était une nouvelle qui était censée être vraiment considérée comme quasiment purement descriptive. Et puis j'ai vu de l'intrigue partout. Alors est-ce que c'est moi qui ai projeté quelque chose ? Je ne pense pas. Je pense que vraiment, ce qui est très fort, en tout cas dans l'écriture de Julien Gracq, c'est d'arriver à montrer comment on est ainsi tendu vers des perspectives temporelles. Chez Gracq, c'est plutôt vers le futur, parce que c'est plutôt le futur qui l'intéresse que le passé, mais qu'est-ce qui nous pousse en avant dans le temps ? Qu'est-ce qui nous arrache de notre moment présent pour aller vers l'avant ? Et ce qui est très intéressant, notamment dans la presqu'île, c'est de montrer que ce n'est pas toujours lié à une angoisse, à un danger, à une chose comme ça, mais parfois c'est le désir, c'est le simple bonheur, le bonheur d'être en avant de la rencontre. Parfois le bonheur, comme ça nous arrive souvent finalement, d'être plus heureux avant de prendre nos vacances que quand on les vit. D'être avant notre rendez-vous que quand on y est. Et je trouvais très beau, par exemple, de voir comment, dans une scène où simplement le personnage roule en direction de la mer, il se réjouit de voir la mer, et ça c'est une expérience, je pense qu'on l'a peut-être tous vécu, en tout cas moi à chaque fois que je descends à Marseille, c'est la sensation que j'ai, hein. Je suis là, je guette la mer, quel sera le premier moment où je vais la voir. Et là on est dans quelque chose qui est très très proche à mon avis, c'est même un passage qui me semble même limpide comme métaphore que fait Grac sur le mouvement de la lecture, hein. Ce mouvement en avant qui est toujours vers l'éventuel, vers ce qui va venir, et qui vit son bonheur de cette anticipation, et en même temps c'est une anticipation de quelque chose qui est certain, mais ce qui reste le dernier élément qui nous pousse en avant, c'est mais quand est-ce que ça va arriver? Est-ce que c'est maintenant? Où est-ce qu'elle se cache? Et il me semble que c'est ça tout le fond de l'écriture fictionnelle, de l'écriture intrigante, c'est ça, c'est de ce jeu de réticence, ce jeu de différer, de remettre à plus tard. Et c'est dans cette différence en même temps que s'éprouve le temps. Et c'est vraiment cette dimension que je cherchais à étudier. Donc je préfère, vous voyez, aller vers des... chercher dans mes lectures, dans mes expériences esthétiques, les moments qui vont me permettre de découvrir les frontières de l'intrigue, plutôt que de donner des recettes qui figeraient finalement l'intrigue dans ces recettes évidentes. Il faut un bon conflit, bien tendu, raconter, je ne sais pas, chronologiquement, commencer vos 30 premières pages en masquant l'identité du personnage et son intention. Voilà, ça, c'est des trucs qui marchent, hein, qui sont utilisés de manière très stéréotypée dans les productions hollywoodiennes, mais l'intrigue est beaucoup plus riche et plus intéressante que ça, à mon avis. Donc, non, pas de recette.
Alors, on parlait de, pas de recette, donc. Vous parliez au début de votre réponse de ces grands Manitou américains fabriqueurs et donneurs de leçons sur les scénaristes, enfin sur les scénarios. Il y en a même certains qui viennent en France donner des cours régulièrement, où il y a pléthore de monde qui assiste, notamment beaucoup de scénaristes français. J'ai envie de vous poser une question sur le storytelling. Sur le pouvoir des histoires que représente le storytelling. Et ma question un peu provocante également, c'est est-ce que le storytelling, selon vous, est uniquement à la solde du libéralisme économique? Et là, je prends un peu le contrepoint du livre du storytelling de Christian Salmon, qui est paru à La Découverte l'année dernière.
Oui, disons que c'est assez intéressant. Pourquoi est-ce que, quand Salmon donne le titre à son livre, il utilise un mot anglais? Pourquoi parler de storytelling? C'est drôle parce qu'aux États-Unis, le terme storytelling veut simplement dire le fait de raconter des histoires, l'acte de raconter des histoires. Donc en octobre, je vais à un colloque dans le New Jersey qui sera un colloque sur le storytelling et qui est quelque chose de très sérieux, qui va amener toutes sortes de professeurs d'université en littérature ou en sciences de langage qui n'ont rien à voir avec les gourous du storytelling dont parle Christian Salmon. Donc c'est assez intéressant quand même. Moi, j'étais un petit peu, interpellé par ce livre. Je trouvais qu'il était très utile, déjà, pour simplement rappeler aux gens que les théories du récit ou le mode du récit comme mode de discours n'est pas du tout mort et jeté aux oubliettes de la modernité, mais que c'est, au contraire, il y a un grand revival, pour utiliser un autre mot anglais, du storytelling, notamment aux États-Unis. Mais le problème, c'est qu'il ne traite que de certains aspects du storytelling, qui sont justement ces gourous qui travaillent aussi en entreprise, dans le marketing, dans le management, et puis alors évidemment il y a ce magnifique amalgame, ça vient d'Amérique, hein, c'est l'Amérique de Bush, c'est utilisé par les soldats américains pour s'entraîner, donc on a en plus la guerre en Irak, et puis c'est utilisé par les grandes multinationales américaines, donc c'est vraiment le trio infernal, c'est l'axe du mal pour l'intellectuel français, hein, Bush, la guerre en Irak, les multinationales américaines. Mais en même temps, si on réfléchit vraiment sur les usages qui sont faits du storytelling, il faut voir que les choses sont beaucoup plus complexes, beaucoup plus larges. Non seulement on se sert de récits aussi bien pour toucher les gens et les amener à donner de l'argent à l'UNICEF, hein, puisque si vous lisez les choses que vous recevez à la poste pour vous demander des dons, il y a toujours une petite histoire qui est racontée, hein, parce qu'ils ont bien compris que ce qui touche les gens, ce sont les histoires d'un petit Africain qui fait des kilomètres sous le soleil, parce que ça nous touche beaucoup plus que des chiffres qui vous donneront. Alors on peut trouver ça regrettable de se dire que nous sommes des êtres plus émotionnels que rationnels, mais en même temps... pour des gens qui travaillent à l'UNICEF, la question ne se pose pas. dans ces termes-là, la question se pose en termes d'efficacité. Voilà, et on constate l'efficacité du récit. Mais les domaines dans lesquels le storytelling ou simplement les théories narratives ou les approches narratives sont très efficaces sont très vastes. Par exemple, j'étais amené l'été passé à donner une conférence à l'hôpital cantonal universitaire de Lausanne, parce que là, j'ai rencontré toutes sortes de gens qui travaillent avec des personnes qui ont des problèmes de maladies longues, d'hépatite, etc., qui sont très intéressés par les approches narratives. Comment trouver des moyens pour le patient de surmonter cette épreuve, de reconstruire une identité après l'annonce d'une maladie longue, d'une maladie... comment est-ce que... Et donc là, c'était des gens qui manifestaient beaucoup d'intérêt. C'est vrai qu'il y a tout un mouvement aussi dans le domaine du storytelling qui s'intéresse par exemple aux récits de maladie et à ce que ces récits permettent d'accomplir pour le patient. Dans le domaine aussi où je travaille, dans le domaine de la didactique, maintenant, les approches d'histoire de vie en formation, depuis 30 ans en France, sont des domaines très très actifs qui visent aussi à redonner une autonomie au sujet dans son parcours de formation, à développer sa réflexivité, à prendre en charge son parcours. Donc, vous voyez, si on prend le vaste champ des usages possibles du storytelling, il y a des champs qui sont évidemment plus condamnables que d'autres, hein. Certains politiciens en abusent pour manipuler l'opinion. Parfois, on voit aussi que quand ils en abusent trop, l'opinion ne suit plus tellement. Donc c'est vraiment ici, il faut dissocier, je pense, une forme, ce que je pourrais appeler une forme de discours, un mode de rationalité humaine qui aurait quelque chose à voir avec les structures narratives et qu'on peut opposer à d'autres formes de rationalité qui seraient davantage logiques ou qui relèveraient davantage du discours délibératif. Mais il faut reconnaître à cette forme de discours un peu irrationnel qui joue plus sur les sentiments, donc la narrativité, le récit, certaines qualités qui échappent au mode plus rationnel. Et notamment cette capacité, par exemple, qu'a le récit de mettre ensemble des choses incompatibles, de donner une forme à la dissonance sans la réduire, de permettre à l'individu qui voit son identité sans cesse tiraillée, transformée à travers le temps, de retrouver quand même une forme pour la dire, même si elle ne retrouve pas son unité. De penser aussi ce que c'est que le rapport au temps. Donc vous voyez, il me semble, si on veut avoir un panneau très large, il faudrait être un petit peu plus nuancé, je pense, plutôt que de mettre sous une étiquette, sous un mot anglais, et en l'associant, disons, à l'axe du mal pour l'intellectuel français, de voir les choses de manière un petit peu plus large. Donc, mais en même temps, je crois qu'il y a un monde de différence entre ces manitous du storytelling qui, effectivement, essayent plus ou moins bien, souvent pas si bien que ça, d'ailleurs, de gagner leur vie en donnant des séminaires sur comment faire pour adapter des approches narratives dans votre entreprise, les gens qui travaillent sérieusement sur ces formes, qui justement, peut-être plutôt que d'adopter des modèles prescriptifs ou de donner des formules qui, toutes faites, essayent de s'intéresser plutôt à la complexité et de cette forme de rationalité et à ce qu'elle nous dit de l'humain.
Eh bien, merci beaucoup, Raphaël Baroni. Merci beaucoup d'avoir été en direct par téléphone avec nous.